Bonsoir. Mise en place le week-end dernier par le président Joseph Kabila du groupe consultatif national chargé d'examiner en profondeur la situation qui prévaut dans l'est de la RDC. Cette structure informelle réunit plus de 80 personnalités politiques, toutes tendances confondues, et les forces vives de la nation. Comment analyser la mise en place de cette structure? Pour en parler, nous recevons honorable Jean-Lucien Boussa, député national de l'opposition et secrétaire général adjoint du MLC, chargé des questions politiques et stratégiques. Honorable Boussa, bonsoir.
Bonsoir.
Honorable François Nzekouye, député national de la majorité présidentielle et cadre du PPRD. Honorable Nzekouye, bonsoir.
Bonsoir, Alain Hirong.
Professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Professeur Kabamba, bonsoir.
Bonsoir.
Merci, chers auditeurs et internautes, pour vos réactions. Coco Pungu depuis Manono Katanga, que le chef de l'État ne se laisse pas distraire comme en 2006. La meilleure solution est de délocaliser le ministère de la Défense, l'ANER et autres structures de sécurité à Goma ou à Rutshuru, parce que c'est là la porte d'entrée de toutes les guerres ici en RDC. Gilbert Kissando de Butembo, Nord Kivu, l'initiative du président de la République est à saluer. Si cela peut pallier à cette crise à l'Est, mais que ce groupe soit formé des vrais patriotes et non des traîtres qui y seront pour distraire simplement. Merci de votre fidélité et de votre attention. Bienvenue à tous dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78. Et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Le week-end dernier, au Palais de la Nation, le chef de l'État, Joseph Kabila, a mis en place le groupe consultatif national pour examiner la situation de l'Est de la RDC. Un groupe consultatif qui est une structure informelle composée de plus de 80 personnalités politiques, majorité et opposition, ainsi que des forces vives de la nation. Au cours de cette rencontre qui a porté sur diverses questions relatives à la situation sécuritaire dans l'Est du pays, on a noté la présence des membres du gouvernement central, des gouverneurs du Nord et Sud Kivu, des membres de l'Assemblée nationale, du bureau du Sénat, des gouvernements provinciaux, du pouvoir judiciaire, du cabinet du chef de l'État, des services de défense et de sécurité, et des confessions religieuses, des partis politiques, des chefs coutumiers, de la société civile et d'autres personnalités nationales. Le point sur cette rencontre avec vous, Kelly Kouté.
La première rencontre de cette structure a eu lieu samedi dernier au Palais de la Nation sous la direction du chef de l'État. Une réunion qui s'est soldée par une série de recommandations, tant sur le plan diplomatique, politique que militaire, en rapport avec la situation sécuritaire prévalant dans l'est de la RDC. Pas un mot cependant à la presse quant aux grandes décisions du groupe. Selon l'honorable Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale et porte-parole du groupe consultatif, je cite, « Étant donné que le pays est en pleine guerre, ce n'est donc pas le moment de divulguer ses différentes recommandations qui sont d'ordre stratégique. » Fin de citation. Il a néanmoins fait remarquer qu'il revenait à présent aux institutions de la République et au peuple congolais tout entier de mettre en œuvre ses recommandations. L'honorable Aubin Minakou a ensuite indiqué que la RDC subit une agression de la part du Rwanda dans la mesure où ce pays soutient militairement les insurgés du M23. Face donc à cette situation grave, a-t-il poursuivi, il était normal que le président de la République, garant de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale, puisse consulter toutes les couches de la population, tant au niveau des institutions qu'à celui des confessions religieuses, des chefs coutumiers et de la société civile. Cela, a-t-il dit, rentre dans la ligne droite de l'agir du président de la République depuis janvier 2001, à savoir la coparticipation de tous lorsqu'il est question d'intérêt majeur de la République, en l'occurrence une guerre d'agression. C'est donc pour cette raison qu'il a été mis en place un groupe consultatif national dont la mission est de conseiller les institutions de la République afin que dans un bref délai, l'agression soit vaincue, a-t-il conclu.
Merci Kevin Kouté. Honorable François Nzekouye, vous êtes député national de la majorité présidentielle et cadre du PPRD. Un groupe consultatif national, quelle est l'opportunité d'une pareille structure?
Oui, la structure était opportune tout simplement parce que le chef de l'État veut associer à la réflexion sur la résolution des problèmes de guerre récurrentes dans le pays et spécialement dans la partie est de la République à un certain nombre de personnalités. En tout cas, son désir, c'est d'y associer tous les Congolais pour qu'ensemble on réfléchisse sur la manière de finir définitivement la guerre dans la partie orientale de notre pays. Et donc, l'idée ressemble à l'homme, comme on l'a rappelé de la bouche de l'honorable Obeminagou, président de l'Assemblée nationale. Cela est un reflet de la personnalité de Joseph Kabila, président de la République, qui a toujours été là pour consulter, pour entendre, pour échanger avec les compatriotes sur les enjeux majeurs de la République. Et donc, le pays étant agressé aujourd'hui, il était tout à fait normal que le président de la République, au-delà des institutions républicaines, c'est-à-dire le gouvernement, l'Assemblée nationale, les pouvoirs judiciaires, qu'il puisse entendre d'autres sons de cloche, qu'il puisse écouter les voix des uns et des autres, tant de l'opposition que de la majorité, de la société civile, pour que nous dégageons effectivement des recommandations qui pourront nous permettre à ce que nous puissions mettre définitivement fin à la guerre dans la partie orientale de notre pays. Et donc c'était quelque chose d'opportune et salué par tout le monde parce que la quasi-totalité des invités à cette rencontre ont répondu présent, à l'exception de quelques leaders de l'opposition, notamment les collègues Mayo de l'UNC qui était invité qui n'est pas venu, et Lisanga Bonganga de l'opposition extra-parlementaire qui n'ont pas répondu positivement, mais dans la grande majorité, les opposants républicains comme ceux de la majorité et toute la classe politique, je viens de le dire, et la société civile étaient présentes pour réfléchir autour du président de la République sur les moyens de mettre fin à la guerre dans la partie orientale du pays.
Alors je reviens aux institutions de la République que vous avez citées, que reconnaît la Constitution en son article 68, le président de la République, le Parlement, le gouvernement, les cours et tribunaux. Quelles sont la légitimité et la légalité, honorable Nzekouye, de cette structure que certains analystes qualifient déjà presque de messe noire?
Non, simplement, c'est un groupe informel, comme nous l'avons si bien dit. Ça n'a pas une légitimité juridique, ça a une légitimité politique. Et je ne crois pas que la Constitution interdise à aucun moment au président de la République de consulter un certain nombre de personnalités sur des questions majeures de la République. Et donc, étant un groupe informel, on ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit, dire qu'il se substitue à une institution quelconque de la République. Et du reste, les recommandations qui sont faites vont à l'endroit...
Auront quelle valeur?
Ce ne sont que des conseils, ce n'a pas une valeur impérative. Bien évidemment, ce sont des conseils à prendre. C'est pour ça qu'on l'a dit, on l'a appelé groupe consultatif. C'est-à-dire, celui qui consulte est libre de prendre en compte les recommandations, de ne pas les prendre en compte. Mais de toutes les façons, je crois que la pertinence de ces recommandations feront en ce que les différentes institutions puissent les prendre en compte pour améliorer la situation dans notre pays et surtout mettre fin à la guerre qui a trop duré et qui a fait perdre beaucoup de vies humaines et mis beaucoup de populations dans la rue.
L'article 208 de la Constitution parle d'un conseil économique et social qui est institué en RDC, qui a pour mission de donner des avis consultatifs sur les questions économiques et sociales lui soumises par le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat et le gouvernement. La RDC n'est-elle pas finalement orpheline d'une pareille structure?
Moi, je crois qu'il est temps que cette structure soit formellement installée.
Ça fait plus de 5 ans que ça n'existe pas.
Tout à fait, je suis d'accord avec vous et j'estime que c'est le moment pour que cette structure s'installe, qu'elle soit, comme la Constitution l'a dit, une structure pérenne. Et donc, les groupes consultatifs est une structure ponctuelle, encore une fois, comme je viens de vous le dire, dont les recommandations n'ont pas de force de loi, parce que c'est ne sont que des recommandations d'un groupe informel de personnes qui ont réfléchi sur un problème ponctuel, la résolution de la crise dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et donc, il n'y a pas de conflit quelconque qu'on peut imaginer entre ces groupes informels et les conseils économiques et sociaux qui doivent être mis en œuvre, nous l'espérons en tout cas au courant de cette législature.
Prenons cette réaction qui nous vient d'Isiro en province orientale pour vous, honorable Nzekouye.
Célestin Poutou, résident à Isiro, dans la province orientale. La mise en place d'une telle structure informelle insinue l'incapacité de l'Assemblée nationale à traiter des grands dossiers de la nation congolaise. De par sa composition hétérogène, on sait clairement voir que le président reconnaît la faiblesse de sa famille politique qui gonfle l'effectif de l'Assemblée nationale.
Les institutions de la République ont-elles échoué, honorable Nzekouye, dans le traitement de cette question, notamment quand on sait la manière dont l'Assemblée nationale a géré cette situation de l'Est?
Non, loin de là. Je crois que l'Assemblée nationale a fait tout ce qui est dans son devoir par rapport à cette question. Et je crois que, sans faire de comparaison, c'est une institution qui a été au premier plan dans les débats sur cette question. Et donc, vous rappellerez que pendant la session extraordinaire, nous avons évoqué cette question de l'Est en invitant les ministres de l'Intérieur et celui de la Défense.
Mais ce débat qui n'a pas donné de solution, finalement.
Non, les solutions dans une guerre, on ne va pas les attendre simplement des discours. Nous avons fait des recommandations qui doivent se suivre des actes.
Qui sont restés dans les tiroirs.
Une guerre, non, ce ne sont pas que les recommandations qui étaient dans les tiroirs, mais une guerre a des rebondissements. On ne prépare pas de quelle manière une guerre se termine. Et on ne sait pas quelle est la stratégie de l'adversaire quand on commence une guerre. Et donc, les réactions par rapport à la guerre doivent se faire au fur et à mesure que la guerre évolue. Et donc, je crois que ça n'a rien à voir avec une quelconque incapacité ni de l'Assemblée nationale, ni de la majorité présidentielle à régler cette question. C'est simplement un esprit d'ouverture parce que nous croyons que dans l'opposition, que dans la société civile, il existe des têtes pensantes qui peuvent donner des suggestions. D'autant plus encore que aujourd'hui, nous sommes en vacances parlementaires et donc le président de la République n'allait pas convoquer l'Assemblée nationale pour ce genre de questions. C'est question simplement d'entendre tous les sons qui peuvent être émis par tous les citoyens que nous respectons, que le président de la République respecte et considère que chacun d'entre nous peut donner une idée qui peut faire avancer le pays.
Honorable Jean-Lucien Boussa, vous êtes député national de l'opposition et secrétaire général adjoint du MLC chargé des questions politiques et stratégiques. Comment vous avez accueilli la mise en place de cette structure?
Mais d'abord, l'insécurité à l'est du pays et la situation que traversent nos frères et sœurs et enfants à l'est du pays nous préoccupe depuis toujours. Et je rappelle que le 12 juillet de cette année, le mouvement de libération du Congo a fait une déclaration pour dénoncer cette guerre et indiquer les perspectives des solutions qui, nous semble-t-il, devaient être considérées comme les perspectives qui devaient être prises en compte par ceux qui sont en train de gérer les pays et la guerre au quotidien. Mais je note, à travers ce que je viens de suivre auprès de mon collègue François, que les partis politiques de l'opposition n'ont pas été invités. Je note que c'est quelques personnalités triées au volet qui ont été invitées par le président de la République. C'est son droit le plus strict, mais au moins, à ce stade,
à titre personnel,
ce ne sont pas les partis politiques qui sont invités. Et donc, c'est quelques individus qui ont été invités. Donc, je crois que là aussi, c'est une précision de taille qui convient que l'opinion soit mise au courant. Maintenant, est-ce que l'idée de pouvoir rassembler les Congolais autour d'une cause commune est-elle une mauvaise idée? Non, a priori. Mais comment le faire? Et je pense que c'est aussi ça la problématique. Je voudrais, avant d'aller en profondeur, vous réfléchir avec tous nos auditeurs. Depuis 11 ans, le président Joseph Kabila promet chaque année de mettre fin à la guerre à l'Est. Depuis 11 ans. Depuis 11 ans, le président Joseph Kabila utilise la même thérapeutique. C'est la trilogie. Réponse politique, réponse diplomatique, réponse militaire. Mais c'est depuis toujours que la situation à l'est du pays demeure récurrente. Je me rappelle en 2007, lorsque le président de la République vient faire son discours au Parlement, il indique très clairement que la situation à l'est du pays était contrôlée et qu'il ne restait plus que quelques poches de résistance au niveau de Rutshuru et de Masisi. Plusieurs années après, on retrouve Masisi et l'est du pays dans des conditions les plus dramatiques possibles. Et la situation n'a fait que s'amplifier ces derniers jours. Je pense que là-dessus, il y a des questions à se poser. Première question, sur l'efficacité de l'action gouvernementale dans son ensemble. On peut noter aujourd'hui que lorsque le président de la République crée un groupe consultatif national dans lequel le MLC ne fait pas partie, donc, je voudrais que vous notiez,
vous insistez,
le MLC ne fait pas partie du groupe consultatif permanent mis en place le week-end dernier, même s'il est vrai
malgré la présence
que des personnalités ont été invitées, pas en tant que parti politique, mais en tant que personnalité.
Le secrétaire général Thomas Louaka, pour ne pas le citer.
Les choses sont claires là-dessus. La position du MLC est celle-ci de considérer qu'aucun membre du MLC et le MLC ne fait pas partie du groupe consultatif. Même si la question nous intéresse au plus haut point, celle de mettre fin à l'insécurité à l'est du pays. Mais je note que depuis 11 ans, ça n'a pas été. Le groupe consultatif qui est créé dans le but d'analyser en profondeur les problèmes qui se posent à l'est du pays, à mon sens, 11 ans après, c'est un aveu d'échec. Complètement. D'une part, parce que les promesses ont été faites. D'autre part, le président Kabila et son équipe n'ont pas manqué des moyens politiques parce qu'il est président depuis 11 ans. Il a des gouvernements qui se succèdent. Il a des chefs d'état-major de l'armée et des équipes au niveau des services de sécurité de partout ailleurs pour lui permettre de pouvoir impulser une politique qui aurait permis de ne pas parler aujourd'hui des Rutshuru dans le sens dramatique et des Masisi dans le sens dramatique. Donc ça, c'est première observation. Deuxième observation, mais cette espèce de systématisation de gestion à l'informel. Rappelez-vous qu'un des présidents de l'Assemblée nationale a eu des difficultés pour avoir dénoncé à l'époque que les Rwandais nous posaient des problèmes à l'est du pays. Donc je me dis là-dessus, le côté formel, vous avez bien fait de poser la question. Qu'est fait le président de la, en tant que commandant suprême des forces? Qu'est fait le gouvernement de la République chargé de la sécurité du territoire? Mais qu'a toujours fait notre armée, notre police nationale, nos services de renseignement? Plutôt que de s'occuper de traquer les individus, à l'instar de Diomi, à l'instar de Chaloupa et autres, il faut bien s'occuper des questions de sécurité nationale. Et là-dessus, je note qu'il s'agit d'une systématisation de gestion à l'informel qui donne véritablement l'air d'une esquive politique.
Et vous faites allusion également, je présume, au comité interinstitutionnel, par exemple.
Le comité interinstitutionnel est totalement illégal. C'est de l'informel, mais de l'informel qui prend le dessus sur le formel. Donc, là-dessus, on rentre vraiment dans la systématisation, comme je l'ai dit, et dans l'esquive politique. Le besoin de trouver, de faire valoir. Oui, l'opposition a été représentée. Non. Lorsque un président de la République demande de recevoir une opposition, je pense que c'est tout à fait normal et c'est son droit le plus strict. Simplement, quand on veut échanger avec la classe politique, mais on connaît la classe politique congolaise, sa pondération réelle, on sait qu'il y a l'UDPS dans ce pays, on sait qu'il y a les MLC, on sait qu'il y a l'UNC, et on sait qu'il y a le groupe, et c'est structuré au niveau de l'Assemblée nationale en termes de groupes parlementaires, qui sont 4 groupes parlementaires. Donc je pense que là-dessus, le besoin de rassemblement est évident, parce que la cause est commune, mais maintenant, sur le plan méthodique, je pense que le président de la République, et d'ailleurs l'opposition a toujours souhaité, pour ces questions d'intérêt national, et des questions transversales qui n'opposent personne, que nous puissions nous mettre d'accord entre AMP, opposition, autour du garant de la nation, pour trouver des réponses idoines aux problèmes qui se posent de manière récurrente dans notre pays et qui posent trop de problèmes à notre population de l'Est.
Et donc, à votre avis, c'est un mauvais départ?
Non, je considère que ça ne sert à rien, cette affaire-là, parce que le président existe, l'armée existe, la police existe. La question est de savoir, est-ce que toutes ces institutions, de manière synergique, ont-elles agi dans l'optique de l'efficacité de leurs actions respectives? 11 ans après, on a toujours la guerre, c'est un échec.
Professeur Bob Kabamba, vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Professeur, vous avez suivi l'honorable Jean-Lucien Boussa qui parle de la mise à l'épreuve de l'efficacité même de l'action gouvernementale et il parle d'un aveu d'échec. Quelle est votre analyse?
Merci beaucoup, Monsieur Erung. Je voudrais d'abord m'excuser auprès des auditeurs parce que je suis un petit peu, ma voix est un petit peu encombrée. Mais je voudrais commencer par vous répondre en faisant un petit rappel historique pour qu'on bien comprendre dans quoi est-ce qu'on est. Souvenez-vous qu'en 2004, il y a eu l'affaire Moutebousi en 2004 lorsqu'il a occupé la ville de Bukavu. Et ensuite, après avoir occupé la ville de Bukavu, on a mis en place une série de mécanismes qui sont censés résoudre les problèmes liés à la problématique que nous connaissons depuis quand même plusieurs années dans cette partie de la RDC. On a mis en place des BARZA, on a mis en place une série de mécanismes de résolution des conflits. En 2006, nous avons Kunda, qui recommence à parler de lui. Et en 2006, à nouveau, on met en place une série de mécanismes, dont le mixage, etc., pour essayer de résoudre encore une fois le problème. En 2008, nous avons encore Kunda avec son CNDP qui remet encore le couvert et qui réattaque et qui remet encore la sécurité. Et la solution, ça a été quoi? La mise en place de la conférence de Goma. Et maintenant, nous sommes en 2012. Alors, en 2012, avec ce qui se passe à l'Est, malheureusement, encore une fois, les populations civiles qui sont les premières victimes de tous ces conflits, et on met en place un groupe consultatif, informel consultatif. Alors, la question s'est posée dans un premier temps, depuis que les conflits persistent à l'Est, quelle évaluation a-t-on fait de toutes les politiques de résolution des conflits de l'Est? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour qu'au moins, on puisse au moins essayer d'avancer dans la bonne direction et qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs qui ont été commises depuis quand même plusieurs années, comme je viens de le dire. Par ailleurs aussi, en mettant en place un groupe de comité consultatif, c'est un peu étonnant, en sachant très bien qu'il y a des institutions de concertation qui existent. Vous avez des institutions de concertation qui existent au niveau du chef de l'État, au niveau du gouvernement, au niveau du Parlement, au niveau des provinces, au niveau local. Donc il y a toute une série d'institutions qui existent, sous lesquelles la plupart des personnalités qui sont invitées peuvent exprimer et envoyer directement et au chef de l'État, ou bien au gouvernement, ou au ministère de la Défense, aux différents organismes, les recommandations que l'on dit qui sont stratégiques et qui ne sont pas divulguées. Par ailleurs aussi, je voudrais quand même ressouligner quand même une disposition de la Constitution qui est très intéressante, c'est que si on constate effectivement que les conflits à l'Est persistent, pourquoi ne pas mettre en place simplement une institution qui va être une institution permanente et qui va essayer de gérer cette histoire depuis quand même plusieurs années et que l'on sait que la population continue à souffrir. On a les institutions d'appui, on a eu les institutions d'appui à la démocratie comme le cas de la CENI, comme le cas d'autres institutions. Pourquoi ne pas essayer de mettre en place une institution claire et dont l'objectif sera celle-là. Par ailleurs aussi, en revenant sur la question maintenant du groupe en lui-même tel qu'il est constitué, généralement dans beaucoup de pays, effectivement, lorsque il y a ces genres d'agression qui vient de l'extérieur, il y a toujours un consensus national qui se fait, un consensus et aussi une prise de conscience nationale par rapport à la défense de l'État. Mais cette prise de conscience ne peut marcher avec la mise en place d'un groupe que s'il y a consensus politique et consensus au niveau société civile et sociale. Alors je constate ici que ce n'est pas le cas. Donc on a trié 80 personnalités pour constituer ce groupe. Dans cette personnalité, on dit opposition-majorité, mais j'entends bien qu'il y a plusieurs partis d'opposition qui n'en font pas partie. Alors ça veut dire grosso modo, de manière très claire, lorsque dans un groupe où on essaye de raviver la conscience nationale, s'il n'y a pas un consensus au sein de ce groupe qui est constitué, à mon avis, ça ne sera pas efficace. Et donc on va tomber dans une dynamique politicienne où on va arriver à avoir des courants des uns et des autres qui vont s'opposer et qui, pour lesquels, malheureusement, l'efficacité ne sera pas approuvée. Donc, de mon point de vue, la mise en place de ce groupe, de ce comité consultatif, pêche par plusieurs aussi, par plusieurs choses. C'est qu'on oublie d'abord d'analyser le conflit. Pourquoi est-ce qu'on revient encore à ce énième conflit dans le Nord Kivu? Et en fonction de cette analyse-là, on constitue généralement des groupes, des résolutions, en fonction de chaque palier et en fonction de chaque problème. Malheureusement, en mettant ce groupe qui s'est réuni donc ce week-end, j'ose croire, vu l'évolution qu'il va avoir et vu la personnalité des gens qui ont été invités, donc je ne pense pas que ce groupe va se pérenniser dans le temps, puisque le conflit est en train de s'enliser dans le temps qui vaut. Voilà ma première réflexion par rapport à votre question.
Alors, professeur, je vous propose de répondre à la préoccupation de cet auditeur qui nous écrit de Kisangani en province orientale.
Joseph de Colombie de Kisangani en province orientale. Nous sommes fatigués par cette énième rencontre stérile avec les mêmes personnes qui induisent le chef de l'État en erreur pour leurs propres intérêts et positionnements. Je proposerai donc au chef de l'État la restructuration profonde de son cabinet, de l'État-major commandement des forces armées et services de sécurité qui sont hautement infiltrés pour moi, la mauvaise gouvernance et le maître mot de la crise multiforme que connaît notre pays.
Réaction, professeur.
Je partage l'avis de l'auditeur par rapport à cette énorme structure qui est mise en place et de manière très claire. Et là, je pense que l'auditeur a bien cerné le problème. C'est-à-dire, grosso modo, on met encore en place toute une série de choses, de mon point de vue, qui n'auront pas de plus-value par rapport à la problématique et par rapport au conflit qui est en train de se passer. Si l'objectif est la prise en compte de la conscience nationale, je pense que l'objectif est raté puisque l'opposition, de manière très claire, s'est déjà déclaré qu'ils n'ont pas été invités, etc. Donc ça ne va pas pouvoir arriver à avoir l'objectif qui est souhaité. Par ailleurs, sur la question liée au FRDC, je pense que Radio Capi a déjà eu beaucoup de débats à ce sujet, qu'il est hyper important, de manière très claire, de pouvoir arriver à restructurer cette armée. De manière très claire, on sait très bien, les analyses ont déjà été faites, c'est que l'armée RDC, malheureusement, est constituée pour une bonne part, je dis pour une bonne part, pas pour la totalité. C'est toute une série d'anciens miliciens qui n'ont pas fait l'école militaire, qui n'ont pas fait l'école des guerres et qui se retrouvent des officiers du jour au lendemain et pour lesquels, lorsqu'il y a conflit, prennent la pose des escampettes plutôt que de pouvoir servir et de pouvoir défendre, non seulement protéger les citoyens, mais aussi défendre les frontières nationales.
Merci.
Et donc, de ce point de vue-là, la réforme, elle est hyper importante. De mon point de vue, il est hyper important de se dire, on fait table rase par rapport à tout ce qui sont dans l'armée, c'est-à-dire de manière claire, ou tous ceux qui n'ont pas les titres, et tous ceux qui n'ont pas fait l'académie, tous ceux qui n'ont pas fait l'académie militaire, qui n'ont pas fait des études pour pouvoir devenir militaire, à mon avis, tous ces gens-là doivent être démobilisés.
Merci.
Et on recommençait avec au moins des gens, des jeunes, pour lesquels il y a moyen de pouvoir arriver à avoir une armée républicaine bien construite et avec bien formée.
Merci, professeur.
Alors, sur la question aussi liée
professeur.
À l'enjeu même de...
Professeur.
Compréhension par rapport à la problématique, vous l'avez déjà dit plusieurs fois sur Radio Capi.
Professeur, souffrez que je vous arrête un moment le temps de redonner la parole à l'honorable Nzekouye. Je vous retrouve dans le prochain tour de table. Honorable Nzekouye, il y a Grassali Kazigabe de Goma en Nord-Kivu qui dit « Je crois que l'heure n'est plus à ce type de consultation en ce qui concerne l'agression dont notre pays est victime. L'agresseur est connu, ses motivations sont connues et donc le président Kabila n'a pas chercher à trouver des solutions qu'il a déjà, il faut plutôt les appliquer. Ces solutions, nous les savons tous, et ces conseillers également ne résident pas dans une réponse militaire. Il faut négocier, toujours négocier, tant que cela est possible. Un peu dans le même sens, Giscard Wasokie, cette structure n'a aucune importance, car je me pose la question de savoir... Où est le rôle du chef de l'État en tant que garant de la nation? C'est une énième fuite en avant du président de la République en faisant semblant d'impliquer toutes les couches de la population. La phase consultative est largement dépassée, mais c'est plutôt le moment d'agir, honorable Nzekouye.
Oui, je crois que les préoccupations des uns des autres reviennent au passé. On a l'impression que le groupe consultatif qui a été constitué, c'est une structure pérenne, à la limite budgétivore, qui va s'enliser et qui va passer son temps à faire des propositions de manière récurrente.
Ou plutôt inopportune.
Voilà. Et donc, je crois que le travail a été fait pendant un jour, les recommandations ont été produites, et ont été transmis à toutes les instances. Il y aura un comité de suivi qui va exister, je crois maximum de 10 personnes, et donc c'est différent de tout ce qui s'est passé, je me répète, dans le passé.
Mais on se souvient, donc, honorable, vous avez toujours la parole, vous la gardez, on se souvient de ce qu'est devenu le comité de suivi des accords du 23 mars 2009, sans suite pratiquement.
Oui, mais ce que j'ai dit, en fait, les comités de suivi existent, et il y a des personnalités internationales et nationales qui travaillent, même si, bien évidemment, ils ne le font pas devant les caméras. Mais je crois que l'idée de la réflexion n'est pas une mauvaise chose en soi. Et je n'ai entendu personne le contredire.
Mais du moins la procédure.
Là, on peut bien évidemment discuter. Parce que quand Jean-Lucien Boussa dit que le MSN n'est pas représenté, je ne sais pas de quelle manière il aurait souhaité être représenté si ce n'est pas par le plus haut sommet de son parti, le secrétaire général. de ces partis qui étaient impliqués. Et c'est cela, en fait, dans tous les partis politiques, que ce soit de la majorité comme de l'opposition, ce sont les chefs essentiellement qui ont été invités dans ces discussions. Et je ne vois pas là où est le problème, à moins qu'ils contestent la qualité du secrétaire général de Thomas Louaka pour les représenter en tant que chef du parti. Mais je crois que la contribution des uns et des autres a été républicaine et très efficace.
Malheureusement, ça pose déjà problème, comme a dit le professeur Bob Kabamba.
Oui, non,
ça, en termes de consensus national.
Sur base du point de vue de Jean Lucien, je crois que le consensus était là. Je vous dis encore une fois que la plupart des personnalités invitées venant des différents partis politiques ont été représentées. Et donc, je ne crois pas qu'il faille encore faire une espèce de conférence nationale bis ou encore moins les dialogues intercongolais pour que les gens se sentent à l'aise. On a réfléchi et je ne crois pas aujourd'hui qu'un membre d'un parti politique peut dire que le point de vue qui a été développé dans cette réunion n'était pas satisfaisant, à moins qu'il n'y ait pas de dialogue au sein de ces partis-là. Mais moi, j'estime que les points de vue de ce qui vient d'être mis par Bob comme dans les autres, c'est cela en fait ce dialogue que nous voulons. Nous voulons que chaque Congolais s'exprime par rapport à cette question des guerres et que effectivement on arrive à des restructurations. Parce que la réunion a porté sur des questions politiques, sur des questions diplomatiques, sur des questions militaires. Et soyez quand même convaincus que nous ne pouvions pas sortir d'une telle réunion sans pour autant faire les propositions du genre de ce qui vient d'être dit ici en matière de la composition de l'armée, qui était effectivement une armée composée des milices à cause des différentes guerres que nous avons connues, et qu'il faille mettre des jeunes dans des écoles militaires pour que nous puissions disposer d'une armée véritablement républicaine. Ces questions-là...
Malheureusement, honorable Nzekouye, c'est comme a dit l'honorable Boussa, on tombe toujours dans la systématisation de l'informel.
Non, je ne crois pas que ce soit une systématisation. Comme je viens de vous dire encore une fois, que ce groupe informel n'a pas un caractère pérenne. Ce n'est pas une structure qui va se réunir tous les jours dans des grands hôtels et continuer à consommer le budget de l'État. Je vous dis par exemple que ce travail-là a été fait à titre gratuit. Personne n'a été rémunéré pour ce travail-là, pour commencer, ce qui n'était pas le cas par le passé. Et donc j'estime que qu'on demande gratuitement à quelqu'un de réfléchir pour son pays, ce n'est pas du tout une mauvaise chose. Et que ces recommandations, si elles sont bonnes et qu'elles peuvent amener un changement positif dans ce que les gouvernements, l'Assemblée nationale, le pouvoir judiciaire et l'armée de la République est en train de faire, c'est quelque chose qui doit être plutôt loué que d'être condamné.
Honorable Jean-Lucien Boussa, nous prenons cette réaction qui nous vient de Bounia en province orientale pour vous.
Emmanuel Agnolito, de la province orientale, du district de Lituri. La centralisation à outrance des pouvoirs à Kinshasa fait que l'on puisse considérer réellement les Chinois et les ressortissants de quelques provinces voisines comme les seuls gens aptes à tout gérer et résoudre les problèmes de ces grands pays. À mon humble avis, pour une bonne représentation pour ces groupes consultatifs nationaux, on tiendrait compte de chaque district et non seulement quelques gens qui prennent ce pays en otage. La réalité de l'Est est complexe et demanderait un franc-parler en vue de permettre à cette partie de la population de se retrouver dans la gestion des choses publiques.
Veuillez nous excuser pour la qualité, la mauvaise qualité de cet élément. Honorable Boussa, de façon générale, il revient sur la représentativité des personnalités invitées à ce groupe consultatif. Et le professeur Bob Kabamba dit déjà que ça pose un problème de consensus national. Donc, on peut s'attendre à rien de ce...
Non, deux choses. Ça pose un vrai problème de consensus national. Nous sommes tous obligés de nous rassembler face aux problèmes qui se posent à l'est du pays. Je l'ai dit ici. Ce sont nos fils, ce sont nos mères, ce sont nos pères qui meurent tous les jours et qui errent ça et là pour que des responsables politiques ne prennent cette affaire à la légère. Maintenant, lorsqu'il faut trouver une réponse politique, parce que c'est là l'aspect politique de la question, maintenant qu'il faille trouver une réponse politique, mais il faut inviter les structures politiques qui sont bien reconnues. Mon frère François a dit qu'ils ont invité des personnalités. Il sait que Maître Maillot, mon ami, n'est pas président de l'UNC. Il sait très bien que Badibanga n'est pas président de l'UNC. Badibanga, il était invité, il n'est pas arrivé. C'est Badibanga qui était là. Badibanga est membre de l'UDPS et le président de l'UDPS, c'est Étienne Tshisekedi. Il sait très bien que Maillot n'est pas le président de l'UNC. Le président de l'UNC, c'est bien
Vital Kamerhe.
Donc moi, j'ai dit, si on a besoin de trouver une réponse politique,
On s'adresse au parti politique. Il a lui-même donc été clair là-dessus pour poser la problématique en termes des personnalités qui ont été invitées pour lesquelles moi je ne vous pose pas. C'est pas mon problème. Mon propos c'est de dire, puisque le président de la République a besoin d'une réponse politique, il faut que la réponse politique, une fois de plus, soit efficace. Mais là, déjà, vous voyez que tout le monde pose le problème de l'absence du consensus national. Maintenant, la question qui se pose, et j'ai suivi mon frère de Ituri, qui dit il faut une représentation, etc. Déjà, nous, on n'est pas d'accord avec le principe du groupe consultatif tel qu'il a été inspiré le samedi dernier et tel qu'il est structuré, avec son objectif, réfléchir en profondeur sur la situation à l'Est. L'heure n'est plus à la réflexion, on suppose que la réflexion aura été faite. L'Assemblée nationale a débattu sur cette question. Des recommandations ont été faites. L'armée réfléchit tous les jours, j'imagine, sur la question.
Et le prof Bob Kamama a rappelé une série de recommandations.
Et donc, je considère que c'est, une fois de plus, un coup d'épée dans l'eau. Il faut poser les vrais problèmes. Quel est le problème? Et quel est le vrai besoin? Sortir nos populations de l'Est de cette espèce d'insécurité systématique. Les responsabilités étant connues, les responsables étant identifiés, aussi bien à l'externe qu'à l'interne, il faut apporter des solutions adéquates, mais des solutions qui permettent de mettre définitivement fin à cette histoire d'insécurité à l'est du pays. Donc, déjà, on n'est pas d'accord avec le principe. Sa structuration me pose un problème parce que nous, on aurait véritablement souhaité que chaque institution fasse son travail normalement et efficacement.
Maître Adrien Ilobakwe de Kananga au Kasaï occidental, je pense que l'idée du chef de l'État est bonne, mais je crains seulement que le résultat ne puisse être celui qu'il attend. Je pense que le président de la République aurait dû convoquer un dialogue national pour penser les plaies causées par les élections, honorable Boussa.
Je crois qu'il est important que tous les pays du monde, même les plus démocratiques, lorsque des questions aussi vitales que celles de l'insécurité d'une grande partie du territoire national se posent, que la classe politique se retrouve. Mais très vite, en République démocratique du Congo, on prend des raccourcis. Ceux de la majorité disent non, l'opposition veut le partage du pouvoir. Non, c'est pas ça notre besoin. Notre besoin, c'est que la démocratie puisse être renforcée. La paix revienne en République démocratique du Congo et que cesse les drames de l'insécurité à l'est du pays. Il est nécessaire qu'après des élections chaotiques, mais aussi après une mauvaise gestion de la situation sécuritaire à l'est du pays et cet aveu d'échec du président de la République en créant les groupes consultatifs et en indiquant qui doivent aller en profondeur comme si on n'avait jamais réfléchi sur la question, il faut nécessairement que la classe politique se retrouve pour débattre de cette question sans forcément souhaiter de prendre... Lorsque le gouvernement était compétent, qu'est-ce qu'on fait? On démissionne.
Professeur Bob Kabamba, deux auditeurs pour vous, Pepe Lissungi de Kisangani en province orientale. Pourquoi créer encore cette structure au moment où on attend la force internationale? Avec l'armée, on n'arrive pas à vaincre l'ennemi. Croyez-vous que sans une armée structurée, que va faire ce groupe consultatif par rapport à la pour mettre fin à la situation de l'Est? Ensuite, pourquoi avoir attendu que la situation s'empire pour mettre en place cette structure? Jean-Louis Tombolo de Bandundouville, tant que l'actuel pouvoir ne nous dira pas le contenu des accords avec le Rwanda et gardera les militaires CNDP, Maïmaï FDLR, à l'Est, la RDC restera championne en structure de paix sans paix. Où sont passés l'opération à Manileo, Moja, ainsi de suite. Je pense que notre pays a plutôt un problème d'hommes que de structures, professeur.
Ben, je voudrais rappeler aussi par rapport aux honorables, hein, parce qu'apparemment, il faut bien se rendre compte, la conférence de Goma a été instituée par ordonnance présidentielle. Ensuite, après la conférence de Goma, il y a eu toute l'analyse, etc., par rapport à la situation qu'il y a dans l'Est. Ensuite, suite à cette conférence, on a eu la mise en place des comités de suivi qui ont été institués par ordonnance présidentielle avec la nomination d'une série de personnalités qui sont chargées de pouvoir assurer le suivi au niveau de l'intégration, au niveau des retours des réfugiés, au niveau du politique, etc., etc. Ces commissions-là existent, elles sont mises en place, elles étaient établies à Goma, elles étaient établies à Bukavu, et elles devaient travailler pour justement résoudre ces différentes questions. La question, effectivement, elle est fondamentale. Alors que des institutions existent, qui sont payées par l'État, À côté, on met encore en place un autre groupe informel qui va réfléchir à la même chose qui a déjà été fait depuis plusieurs années et dont les conclusions sont connues de tout le monde et les conclusions et les analyses sont connues de tout le monde. Donc, de mon point de vue, je pense que ça n'est pas pertinent ni opportun. Ce groupe consultatif, il n'est pas opportun du fait que les structures existent. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore eu une ordonnance qui dissout les différentes structures qui ont issu de la conférence de Goma et qui ont mis en place tous les processus, les programmes à Manivéo, etc., etc., comme l'a bien souligné l'auditeur. Et donc, de mon point de vue, ce n'est que, encore une fois, ne pas s'attaquer aux problèmes de fond, rester en surface. Et malheureusement, ce sont encore une fois les populations civiles qui vont continuer à souffrir dans l'est de la RDC. Et actuellement, on parle de quand même 500 000 personnes qui sont déplacées et qui sont réfugiées, soit en Ouganda, soit à l'intérieur de la RDC.
Alors, professeur, en guise de conclusion déjà, puisqu'il nous reste moins de 5 minutes pour terminer cette émission, peut-on se poser la question sur la réelle volonté de mettre fin à cette situation de l'est?
La situation, on connaît la situation. On sait bien ce qu'il faut faire. Malheureusement, on a l'impression que ça donne, c'est qu'au niveau de l'autorité étatique, qu'on n'a pas la volonté politique d'arriver à mettre les moyens pour pouvoir mettre fin à cette situation telle qu'elle est connue depuis 2004, 2006, 2008 et maintenant 2012. Et je suis sûr que 2013, 2014, nous aurons toujours la même situation. Nous reviendrons toujours avec les mêmes problèmes. Nous reviendrons toujours avec d'autres groupes armés qui vont avoir d'autres revendications, ainsi de suite.
Alors, professeur, juste un mot sur le Conseil économique et social qui est constitutionnel. On en a parlé pour terminer.
Oui, le Conseil économique et social, malheureusement, ce n'est pas vraiment dans ses prérogatives, en fait. Le Conseil économique et social, c'est beaucoup plus tout ce qui est question économique, toutes les questions économiques liées au mieux-être, effectivement, et par rapport à des investissements et par rapport à une politique économique et sociale pour amener un mieux-être. Ici, nous sommes dans une dynamique de conflit. On n'est pas dans une dynamique comme dans le Conseil, dans le Comité économique et social, mais c'est plutôt une autre structure qui doit mettre fin à la guerre et mettre en place un processus qui permettent justement au comité économique de pouvoir jouer son rôle.
Merci.
Dans les cas actuels, ce n'est pas le comité qui peut être l'élément ou l'instrument indispensable pour résoudre la question à l'aide de la RDC.
Merci, professeur Bob Kabamba. Honorable François Nzekouye, le professeur Bob Kabamba, l'honorable Jean-Lucien Boussa sont revenus là-dessus. Les problèmes sont connus. Pourquoi on ne les résout pas directement, mais on a l'impression de passer plutôt le temps, en guise
non,
de conclusion?
Ce n'est pas d'abord qu'on ne les résout pas directement, parce que le problème, c'est quoi? C'est l'agression du Rwanda. Et notre diplomatie l'a montré noir sur blanc. Les sanctions sont en train d'être faites contre le Rwanda, et le Rwanda, aujourd'hui, est en train de se retirer, parce que sans le soutien du Rwanda, les M23 ne vaut rien. Et donc, on ne peut pas dire qu'on ne fait rien. Et là, les faiblesses que nous avons constatées dans l'armée liées au mixage, au brassage, tous ces processus que nous ont amené les mouvements ex-armés aujourd'hui partis politiques démocratiques, sont des problèmes qui ne peuvent pas se résoudre en un jour. Et donc les militaires qui nous ont envoyés sans aucune formation, qui ont fondé notre armée, ce qu'elle est aujourd'hui, c'est une question que nous allons régler en créant une armée républicaine qui n'est pas liée aux couleurs. Et donc l'idée de ne pas dialoguer aujourd'hui avec les forces négatives que nous devons par contre neutraliser, c'est une idée qui découle de cette dynamique diplomatique qu'ils sont en train de mener de façon très forte et qui porte fruit. Et donc, j'estime que nous ne sommes pas en train de nous asseoir, mais simplement pendant que nous agissons, il est tout à fait normal que les Congolais dialoguent pour voir qu'est-ce qui peut être amélioré dans la façon de faire. Mais les gouvernements, l'Assemblée nationale, les pouvoirs judiciaires, notre armée, sont en train de travailler pour régler cette question de l'Est. Et Merci. Nous disons donc que les populations de l'Est, de Rutshuru et d'ailleurs, doivent savoir que le gouvernement de la République se préoccupe de cette question et est déterminé à régler définitivement ces problèmes récurrents de guerre.
Honorable Jean-Lucien Boussa, conclusion.
Les problèmes de l'Est sont très bien connus depuis plus de 11 ans. Depuis que donc le président Joseph Kabila est au pouvoir avec sa majorité. Les auteurs sont identifiés depuis longtemps, à un moment donné on a voulu les cacher. Même au niveau de l'Assemblée nationale, lorsqu'on citait les Rwandais, on nous demandait de nous taire. Et donc les acteurs sont connus. Bosco Ntaganda et compagnie, on l'a protégé ici. Pendant longtemps, pour dire que c'était un acteur de paix. Or en réalité, c'était un acteur de déstabilisation du pays. Les décideurs sont aussi connus. Mais qu'est-ce qui manque pour que nos frères de l'Est qui nous suivent
puissent vivre dans un environnement apaisé comme nous tous ici à Kinshasa. Ce qui manque, c'est la vraie volonté politique et des réponses adaptées à la situation.
Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à vous présenter cette émission. Kevin Kouté, Guy Maté, Samuel Kachak, sous la supervision de Julien Nyamouni, Dieudonné Nyangasa et Bob Landou étaient à la technique. Présentation et coordination, Alain Roux-Mouchige. Au revoir.